Femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous, c'est la 19e émission de cette année 2025, émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et nous sommes le mercredi 14 mai. Et comme tous les mercredis, c'est l'émission Femmes libres entre 18h30 et 20h30. On peut réécouter les émissions et avoir le programme en allant sur le blog émission-femmeslibres.blogspot.com. On peut aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Le programme de ce soir, féminicide par compagnon ou ex. Ensuite, accord et accri, hashtag 9. En fait, il s'agit de la rediffusion de accord et accri numéro 1 sur les Riot Girls. Donc, la naissance de ce mouvement féministe, punk et politique dans les années 90. En troisième temps, ça sera Odile Merclin qui sera notre invitée pour nous parler de l'actualité de la précarité et du chômage, puisque le gouvernement s'apprête très fortement à restreindre tous les droits sociaux. Voilà, et quelles conséquences, évidemment, pour la population et notamment pour les femmes. Et le quatrième temps, information, communiqué, rendez-vous. Donc, féminicide par compagnon ou ex.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
de Metz. Une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son père.
Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au Pakistan.
Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses deux enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix, un homme mis en accusation pour l'assassinat
le
de...
Le corps d'une Allemande vient d'être
ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces crimes machistes. Reconnaissons le féminicide.
Chaque semaine, nous faisons état de la recension dans les médias, sur Internet, des féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France. Et c'est toujours un chiffre à minima. De nombreuses affaires sont non comptabilisées, car elles sont en surveillance et subissent l'omerta des parquets pour certaines. Non, ce ne sont pas des drames familiaux, ni des drames de la séparation, ni des crimes passionnels. Ce sont des féminicides conjugaux perpétrés par des hommes frustrés qui pensent détenir un permis de tuer. Ce sont des assassinats systémiques dont l'origine se trouve au cœur de notre société, dans l'éducation patriarcale qui est donnée aux enfants et aux hommes et qui les autorise, les hommes, à posséder femmes et enfants, à disposer de leur vie. Le 28e féminicide, vendredi 9 mai à Chevilly-la-Rue dans le Val-de-Marne, Céline, quadragénaire, a été battue à mort par son compagnon de 45 ans à leur domicile. L'homme a ensuite prévenu l'un des deux enfants du couple et c'est ce dernier qui, à son tour, a alerté une proche qui a contacté la police. À leur arrivée, le meurtrier aurait tenté de se pendre. Le 29e féminicide, lundi 12 mai à Chauffailles, en Saône-et-Loire, une femme de 55 ans a été abattue en pleine rue avec une arme à feu par son mari de 60 ans. Des témoins des coups de feu ont immédiatement prévenu les secours. Le meurtrier a ensuite pris la fuite avant d'être interpellé dans un bar à Pouilly sous Charlieu. Nous les citons, nous ne les oublierons pas. Le site www.féminicide.fr.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes, reconnaissons le féminicide.
Accord et à cri, 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 accord et à cri. Musique et féministe de Radio Libertaire, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler des Riot Girls. Premier épisode, la naissance d'un mouvement dans les années 90, un mouvement féministe et politique anticapitaliste. Au programme ce soir, The Go Team, Bikini Kill, The Slits, Bratmobile et Team Dresch. Le monde de la musique est et reste encore une industrie patriarcale, vous ne l'ignorez pas. Et depuis les débuts du rock, du blues, de la pop, ce sont les mecs qui dirigent, qui choisissent, qui produisent. Mais dans les années 90, bon, c'est-à-dire au siècle dernier quand même, un mouvement féministe militant né aux États-Unis, ce sont les Riot Girls qui font du punk un outil de l'action anticapitaliste. Alors avant ce petit retour historico-politico-rock, je recommande l'excellent livre de Manon Labrie, Riot Girls, chronique d'une révolution punk féministe, qui m'a été très utile. Alors le contexte, 1981-1989, Reagan est au pouvoir aux États-Unis, donc à droite toute, hein. Retour du puritanisme, on met la contre-culture à la poubelle. Les néoconservateurs prennent le pouvoir et bien sûr ils détestent les communistes, les anarchistes, les écologistes bien sûr, tout ce qui est plus à gauche qu'eux, qui n'est pas d'accord et évidemment en particulier les féministes. Pour les néocons, le féminisme est mort depuis que les femmes ont choisi de travailler au lieu de faire des enfants. Alors ok, mais 10 ans de clips pourris sur MTV, d'attentats anti-avortement, de discours militaristes, ça commence à bien faire et certaines sont très en colère. Et un mouvement apparaît, ce sont les Riot Girls, Riot qui veut dire émeute, et Girls, les filles avec 3 R. Des Riot en colère, des Riot Girls en colère qui montent des groupes de musique, mais pas que, vous entendrez ça un peu plus loin. Alors un groupe en particulier est considéré comme le créateur du mouvement, c'est Bikini Kill. On écoute Candy, le premier titre du premier 45 tours qu'ils ont sorti simplement en 1991.
Thank you.
J'ai avalé ma fierté, j'ai léché les plaies, j'ai mangé mon cœur, j'ai avalé ton sperme, mais c'est tout ce que j'ai fait. Un extrait des paroles de Candy Bikini Kill. Alors oui, elles sont en colère et à raison. Le constat est désespéré. Parce que depuis les années 60, jusqu'à l'arrivée du punk au milieu des années 70, les filles, ce sont surtout les groupies du rock. C'est vrai que l'éducation les prépare plutôt à faire la cuisine qu'à jouer de la guitare saturée. Mais pour jouer du punk, là, pas besoin d'être une super guitariste ou batteuse ou bassiste. On a des choses à dire, on monte sur scène et on les hurle. Avec le punk en Grande-Bretagne et aux États-Unis, des tas de filles se disent « Eh ben, moi aussi je peux le faire ». Alors elles montent des groupes. XXX, les Slits, The Runaways, les L7 et plein d'autres. Et ce sont justement les groupes que vont écouter les futures Riot Girls. Petit détour en 1979 en Grande-Bretagne avec Harry Up des Slits. Les Slits, c'est les fentes. Et elle chante une chanson qui a vraiment marqué les jeunes Riot Girls en devenir. C'est Typical Girls, c'est-à-dire les filles typiques s'énervent trop vite, elles n'arrivent pas à se contrôler, elles ne peuvent pas penser, se rebeller, elles attendent leur mari. Les Slits, Typical Girls. Alors on retourne 10 ans plus tard après les Anglaises, 10 ans plus tard aux États-Unis, on est à l'orée des années 90 et ça bouge à Olympia, une petite ville de l'État de Washington. Il y a l'université d'Evergreen, université d'État alternative, engagée, un genre de vivier créatif où on pratique le do it yourself, le DIY, mais il y a aussi un public qui va à tous les concerts et qui applaudit. En 1989, Toby Vail a 20 ans. Celle qui va être la batteuse de Bikini Kill monte The Go Team, un duo avec Calvin Johnson, le patron du label Care Records, un label auquel participeront Billy Karen, le futur guitariste de Bikini Kill, et sur un titre, Kurt Cobain, ouais, le Kurt Cobain de Nirvana, et d'ailleurs c'est lui qu'on entend la guitare en ce moment en fond sonore. Bikini Kill naît officiellement en 1990 avec Kathleen Anna au chant, Toby Vail à la batterie, Billy Karen à la guitare et Kathy Wilcox à la basse. Bikini Kill croyait que si toutes les filles du monde montaient des groupes, le monde changerait. Créer des îlots de résistance culturelle, punk et féministe, c'est ce à quoi elles ont contribué en faisant plein de concerts. Et leur but, c'était de tisser un réseau souterrain, un réseau underground, un réseau de filles qui jouent de la musique. Et ça, ça a marché. Bikini Kill, Rebel Girl. Let's go back to Olympia, retour à Olympia. Toujours ce creuset de la rébellion féministe. Alors Alison Wolfe est en fac à Evergreen. Elle est la fille de Pat Shively, une féministe radicale et lesbienne qui a monté la Women Health Clinic Eastern Olympia en 1981, la clinique des femmes donc à l'est d'Olympia. Et elle l'a tenue pendant 10 ans et pendant 10 ans elle a subi les manifs et les attaques des ligues anti-avortement d'un bout à l'autre de l'ouverture de la clinique. Alison Wolfe elle-même est féministe, engagée, monte avec Molly Neumann de Washington DC le groupe Bratmobile. On va écouter Bratmobile, un morceau qui s'intitule Give Me Brains, qui est un peu le pendant des Typical Girls des Slits en 1991. Quelques paroles, je veux que tu partes, que tu saches que je te déteste, et tous ces putains de mecs dans ces putains de groupes, ferme-la, sors de ma voiture, toutes les filles voient clair dans ton jeu, Alors, donne-moi un cerveau pour le petit déjeuner. Bratmobile, give me brains. Pourquoi tant d'ébullition à Olympia? Eh bien, tout simplement, enfin, pas tout simplement, parce que l'affaire est beaucoup est très complexe, au contraire, mais d'abord parce qu'on y cultive des house shows, c'est-à-dire des concerts en petits comités, dans les salons, dans les sous-sols des maisons, chez les uns les autres, quoi. Des endroits où l'underground fleurit, hors des circuits commerciaux, et où les moins de 21 ans peuvent enfin s'éclater parce que les salles de concert traditionnelles leur sont interdites. Évidemment, on y vend de l'alcool, c'est interdit aux moins de 21 ans. Et puis les filles ne font pas que jouer de la musique, elles écrivent, elles s'auto-éditent dans un monde sans internet. Hein. Ces girlzines, des fanzines anticapitalistes, punk, féministes, champignonnent dans la région. Toby Veil lance Jigsaw Puzzle. Elle écrit dans le numéro 0, Jigsaw n'est pas un produit de consommation, ce n'est pas un produit du tout. C'est plus un processus et je suis en train de réaliser que la clé, c'est le processus. Mais il y a aussi Sister Nobody, Sœur Personne, Chainsaw, Tronçonneuse ou encore Bitch, Salope, et plein d'autres dont les archives ont disparu. Alison Wolff et Molly Neumann créent Girl Germs et Riot Girls, deux fanzines, dans lesquelles elles dénoncent le sexisme dans le rock. C'est aussi l'essence des paroles de Bratmobile. Donna Dresch, elle, la créatrice de Chainsaw, qui est aussi la guitariste de Tim Dresch et fondatrice du label queer indépendant Chainsaw Records, déclare en interview « Peut-être que dans Chainsaw, il s'agit de frustration. Frustration en musique, dans la vie, dans le fait d'être une fille, d'être homo, d'être un ou une inadapté, dans le fait d'être nul. » On écoute donc Tim Dresch avec Donna Dresch, guitare et basse, Jody Blail qui joue de la guitare, qui chante aussi, qui joue de la basse, Kaya Wilson, pardon, guitare et voix, et Marcy Martinez, batterie. C'est Song for Anne Bannon. Et Anne Bannon était une écrivaine de romans de gare lesbienne dans les années 60, probablement la plus connue. Song for Anne Bannon.
Shopping cart, her husband's in the cracker aisle.
Toutes ces filles cassent les codes. Elles s'approprient les médias à leur portée. Elles peignent, elles dessinent, elles écrivent sur la réalité misogyne, sexiste et homophobe qu'elles vivent au quotidien. Elles envoient définitivement balader l'image de la square girls, la fille qui reste à sa place, enfin celle qu'on lui a assignée, peut-être au bord du stade à faire la pom-pom girl. C'était à la fin du siècle dernier. Nous sommes en 2024 et les talibans interdisent aux Afghanes de chanter en public. Tous les fonds sonores de cette émission sont de The Go Team, sortis sur les cassettes K Records. Et voilà, c'est la fin de Accord et Acri. On se retrouve dans un mois, peut-être avec ces Riot Girls qui ont voulu changer le monde, et pas seulement celui du rock, mais peut-être aussi avec des interviews exceptionnelles que nous sommes en train de vous mitonner. Vous trouverez la playlist et les liens pour aller plus loin sur la page de l'émission. Accord et Acri, c'est tous les deuxièmes mercredis de chaque mois, 18h30, sur Radio Libertaire, 89.4 FM et sur Internet. Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Salut!
Voilà, après cette rediffusion d'Accord et Acri, puisque aujourd'hui Agnès ne pouvait pas être là, elle nous a conseillé de repasser ça. C'est vrai que c'est intéressant de voir que au siècle dernier, comme elle dit si bien, il y avait des filles qui cassaient les codes, et ça continue de casser les codes. On en reparlera au mois de juin dans une autre émission sur la musique. Pour l'instant, on accueille Odile Merclin sur précarité et chômage, puisque Odile, c'est tes sujets de prédilection depuis longtemps.
Enfin, de prédilection. Bon, enfin, je dis bonsoir d'abord aux auditeurs. Bon, effectivement, je suis un peu spécialisée sur cette question, étant féministe de longue date.
Voilà. Tu as travaillé longtemps sur le marché du travail, les politiques d'emploi, le chômage, la protection sociale, les réformes de l'assurance chômage, tout ça en lien évidemment avec la précarité d'emploi des femmes. Et la dernière fois qu'on t'avait invité, c'était pour ton livre paru chez Sileps en 2023, Femmes, chômage, autonomie.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et ben aujourd'hui, tu vas nous parler plus de l'actualité depuis ces 2023. Et malheureusement, le gouvernement prévoit de réduire les droits, de les contrôler, puis de radier des gens, hein, carrément de la liste de ceux qui pourraient recevoir des allocations, et ça aggrave la situation d'une grande partie de la population, les demandeurs et demandeuses d'emploi, les précaires, les familles monoparentales, les jeunes, les seniors, les sans-abri, les migrants et migrantes, etc., etc. Je pense que on a une population de précaires et de pauvres qui est en train de grandir, d'augmenter en France.
Qui explose, on peut dire.
Qui explose, oui. Ouais. Voilà. Alors, merci de nous avoir transmis Précarité Magazine, à l'aide d'informations pour les chômeurs, les précaires, les cassos, c'est écrit comme ça, hein, je le redis, et leurs amis. Un hebdo qui est gratuit et à diffuser sans modération. On peut le retrouver en demandant, puisqu'il est gratuit, en demandant de le recevoir à précarité, alors sans l'accent, .magazine@gmail.com. Et ce Précarité Magazine, tu peux nous en parler, de nous dire un peu comment il est confectionné?
Oui, parce que disons que c'est une revue de presse hebdomadaire qui est composée de différents articles collectés grâce à des militants de la permanence de la coordination des intermittents et précaires qui a lieu tous les lundis au café de la commune d'Aligre, l'après-midi. donc dans le 12e arrondissement. Et puis aussi, grâce à des envois de documents par tout un ensemble de collectifs, de comités de chômeurs, d'assemblées locales ou de réseaux d'entraide entre les précaires qui se réunissent dans différentes villes en France. Mmh. Et qui donc, voilà, donnent des informations sur leurs activités, notamment. Et donc, bien, ce bulletin est très intéressant parce qu'il nous donne une idée des multiples facettes de la précarité qui ne cesse actuellement de se généraliser, que ce soit au niveau du logement, du revenu, de la précarité alimentaire, malnutrition, de la précarité énergétique ou même de la précarité hygiénique. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent même plus acheter de dentifrice ou de savon. Et voilà, donc, et à la lecture de ce bulletin, eh bien, on voit qu'il se passe beaucoup de choses dans toutes les régions et qu'il y a des résistances face à la régression des droits sociaux qui est actuellement... Alors, vraiment, elle est énorme cette fois-ci parce qu'il faut dire que quand même, depuis 30 ans, avec les mouvements de chômeurs et précaires, on avait réussi à limiter la casse. Enfin, on avait au moins réussi à empêcher des destructions massives des droits sociaux. Seulement là, vraiment, on se retrouve devant une situation qui est absolument
Alors, on va commencer par le chômage. Les promesses de Macron en 2017, c'était... Ce n'est qu'une promesse, bien évidemment. C'était le retour au plein emploi. Et ben tout ça, ça s'est complètement effondré, puisque on continue d'avoir de plus en plus de chômeurs et de chômeuses. Hein. Et quand il disait retour au plein emploi, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait surtout des cadeaux assez importants aux patrons. Hein. Mm-hmm. Et aux patrons, et les patrons qui disaient « il nous faut de l'argent pour ne pas licencier », ils ont pris l'argent et ils licencient.
Exactement.
Hein, c'est ça, ça qui se passe. Mm-hmm. Donc, en fait, il a enrichi les plus riches. Au moment du Covid, il y a eu un soutien. Hein. Le soufflet est retombé. Et du coup, aujourd'hui, on est avec une augmentation du chômage
très importante.
Là, au dernier trimestre, ça a augmenté, bien qu'il y ait beaucoup de radiation.
Oui.
Donc, s'il n'y avait pas les radiations, ça serait encore des chiffres bien plus importants. Il y a 5,7 millions de chômeurs.
Dans les catégories, seulement trois catégories, A, B et C.
Voilà.
Oui, ouais. Oui, oui.
5,7 millions. L'année dernière, c'était 4,5 millions.
Oui, alors je précise quand même, la catégorie A, c'est les gens qui sont au chômage total. Donc, ils n'ont pas travaillé une seule heure dans le mois. Catégorie B, c'est des gens qui ont travaillé un petit peu, mais moins de 78 heures dans le mois. Et la catégorie C, c'est des gens qui ont travaillé plus de 78 heures.
Ouais.
Mais tout en restant inscrits.
Voilà. Et dans la catégorie A, entre les deux trimestres, la fin de l'année 2024 et le premier trimestre 2025, rien que sur la catégorie A, il y a eu plus de 273 000 chômeurs.
Oui, ben ça c'est normal, enfin, je dis c'est normal, bon, entre guillemets, mais parce que bon, il y a eu les effets de la loi sur le plein emploi du 18 décembre 2023, qui veut que désormais toutes les personnes qui sont allocataires du RSA, sont automatiquement inscrits à France Travail. Également, les jeunes qui auparavant allaient dans les missions locales pour l'emploi pour avoir un suivi, désormais, tout le monde va être inscrit à France Travail.
Donc, même les personnes handicapées.
Oui, oui, oui. Y compris les personnes en situation de handicap qui avant étaient suivies à Cap Emploi. Donc, tout ça étant réuni dans un seul organisme qui s'appelle France Travail, alors qu'avant c'était Pôle emploi. Bien évidemment, on peut regarder ce qui se passe quand on neutralise les effets de la loi plein emploi. Et on a quand même une hausse assez importante. Alors, je regarde dans la catégorie A, par exemple.
Oui.
On a 12,8%, hein, quasiment 13% d'augmentation de la catégorie en un an. Bon. Et pour les catégories B et C, 6,4% d'augmentation. Non, pour toutes les catégories A, B et C, 6,4%. Si on neutralise les effets de la loi plein emploi, on a seulement 1,3% d'augmentation du chômage. Mais enfin, c'est déjà assez important. C'est-à-dire que du fait de la loi plein emploi, on a à peu près 1 200 000 personnes supplémentaires qui doivent être inscrites et comptabilisées dans les chiffres de France Travail. Mais même indépendamment de ça, on a une très forte hausse. Et il faut dire aussi que par rapport à ces catégories, ce qui va considérablement embrouiller les chiffres, c'est qu'on a des changements de définition. On a notamment pour les catégories A, B, C, des changements dans les règles d'actualisation mensuelle qui font que certaines personnes peuvent être catégorisées maintenant dans la catégorie A au lieu d'être en catégorie B, par exemple. Mmh. Enfin, ça, c'est... Alors, je ne saurais pas l'expliquer très précisément, mais voilà, les règles d'actualisation ont été modifiées. Et en plus, on a eu la création... Alors, A, B, C, c'est les catégories qui sont dans l'obligation de rechercher un emploi. Après, on a encore les catégories D et E, qui n'ont pas d'obligation de recherche d'emploi, qui sont des gens soit en formation, soit avec un projet de création d'une petite entreprise ou en emploi aidé ou dans d'autres situations comme ça. Et en plus, on a créé deux nouvelles catégories. La catégorie F, qui est dite sociale, c'est une catégorie qui va être réservée aux personnes qui ne peuvent pas dans l'immédiat rechercher un emploi à cause de leur situation sociale ou familiale.
Par exemple, qui serait pas stable dans un logement, ça peut être ça,
oui, ça peut être des raisons de santé, ça peut être des raisons de personnes qui n'ont pas de solution de garde d'enfants, aussi la catégorie G, c'est celle où on met tous les gens qui se sont inscrits, mais qui n'ont pas été encore orientés vers un certain type d'accompagnement. Donc, on ne sait pas s'ils vont être en accompagnement social ou dans l'obligation de rechercher un emploi.
Voilà. D'accord. Ça fait beaucoup de catégories, ça. Et du coup, ça fait du personnel, s'il y a encore du personnel. Je dis ça parce que dans mon ancien boulot, quand je recevais des gens qui étaient au chômage et qui rentraient dans la formation dont j'étais responsable, eh bien, eux, ils pouvaient même pas rencontrer quelqu'un, hein, pour avoir des informations. Tout se passait par téléphone ou par mail. Donc, ça veut dire du personnel qui est affecté pour chaque catégorie. Comment ça se passe, ça?
Ce qu'on sait de façon certaine, parce que c'est déjà fait depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y a une dématérialisation quasi totale de toutes les démarches à effectuer. C'est-à-dire qu'auparavant, un demandeur d'emploi qui s'inscrivait à France Travail était reçu par un conseiller. Là, aujourd'hui, tous les dossiers sont remplis par la voie d'Internet, les dossiers numériques. Donc, il y a eu énormément d'économies de personnel qui ont été faites, Bon, pas seulement pour ça, mais tout a été modifié, même dans la façon dont les demandeurs d'emploi sont censés rechercher du travail. Ils utilisent de plus en plus des moyens numériques. Ils vont, on leur dit d'aller sur des sites internet et de déposer leur CV, etc. Et même les modalités de contrôle sont en train d'être complètement dématérialisées et numérisées. Donc, il faut quand même voir que chaque conseiller a environ 400 dossiers de demandeurs d'emploi à suivre. Bon, bien entendu, c'est absolument impossible pour eux de convoquer toutes ces personnes-là régulièrement comme ils seraient censés le faire. Alors, il y a des catégories qui sont censées être dans un accompagnement renforcé. Mais là, je crois que raisonnablement, personne ne se fait beaucoup d'illusions sur ce que ça va être que cet accompagnement. Donc, on a eu depuis quelques mois, plusieurs journées de mobilisation des salariés de France Travail, parce que ce qui leur tombe dessus, il y a un malaise énorme, il y a une souffrance du personnel, il y a même eu malheureusement des suicides.
Parce que
tellement tout ça est compliqué, et puis quelque part on les met en danger aussi, ces personnes, parce que les relations avec les demandeurs d'emploi sont pas très faciles.
Bien sûr, quand on a l'impression d'être floué dans ses droits, la seule personne vers qui aller, c'est le conseiller de France Travail. C'est évident. Ouais. Là, on rappelle aussi qu'au 1er février 2023, il y a eu la durée d'indemnisation qui a été réduite de 25%.
Oui, alors ça, malheureusement, on est depuis quasiment 2017, on est dans des réformes permanentes de l'assurance chômage. Donc c'est Macron qui a mis en place ce système. Bon, en fait, il ne tient même pas compte du tout des partenaires sociaux. Donc il y a eu cette réforme de 2019 et 2021 qui a déjà durci considérablement l'accès au droit à indemnisation, puisqu'il faut maintenant 6 mois de travail sur les 2 dernières années. Donc, il y a eu également une forte baisse des indemnités de chômage, essentiellement pour les catégories précaires, c'est-à-dire les ex ou salariés en emploi discontinu qui vont continuellement d'un emploi de courte durée à un autre, et parmi lesquels on a majoritairement des femmes et des jeunes.
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc ça, et avec la réforme de 2022, qui a été appliquée donc au 1er février 2023, on a maintenant un écourtement de 25% de la durée des allocations pour tous les demandeurs d'emploi, hommes et femmes. Donc là, ça rétablit un certain équilibre, on peut dire. C'est-à-dire que là où la durée maximale des allocations était de 2 ans, maintenant elle est plus que 18 mois. Et là où on avait 3 ans, on n'a plus que 27 mois. Et donc, les nouvelles mesures prises en novembre 2024, puisqu'il y a eu une nouvelle convention, une édicte qui a été adoptées et agréées par l'État, elles ont repoussé la filière des seniors au-delà de 57 ans. Donc, alors qu'initialement, elle était à 53 ans, puis à 55, maintenant, elle est à 57 ans. Donc, on a de nouveau écourté de 4 mois et demi la durée des allocations pour les 53 à 57 ans. Donc, voilà. Alors, je dois dire aussi que ces nouvelles mesures se conjuguent avec l'élévation de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Or, eh bien, d'après les études réalisées par l'UNEDIC, dès l'âge de 55 ans, on a une très forte baisse de la capacité des demandeurs d'emploi à retrouver un emploi.
Bien sûr.
Donc, en conséquence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une augmentation des personnes qui sont dans les minima sociaux ou bien n'ont droit à rien parce que s'ils ont un conjoint, par exemple, qui travaille et qui gagne plus de 900 euros, bon, ça dépend de la configuration familiale, mais bon, si on est en couple avec quelqu'un qui gagne plus de 900 euros, on n'a pas le droit au RSA, par exemple. Hein. Donc, c'est très, très difficile pour ces personnes-là.
À deux personnes, vivre avec 900 euros, c'est de toute façon difficile.
Alors, il y a une autre chose qui est problématique, c'est que le gouvernement veut faire travailler les seniors, alors que beaucoup ont des problèmes de santé ou sont épuisés par le travail. Et donc, on voit qu'en réalité, d'après cette étude de l'UNEDIC, on a sur les 50 à 65 ans, en moyenne, 28% de personnes qui ont pu retrouver un emploi durable après un an d'inscription à France Travail, ce qui est quand même assez limité. Et à 61 ans, c'est plus que 20% qui retrouvent un emploi durable.
Et donc 80% qui retrouvent pas,
oui,
et qui vont attendre la retraite avec au début un peu d'argent, et puis après, ça sera la retraite qui prendra le relais.
Et alors, j'ajouterais que là où le problème devient très très grave pour la protection sociale, parce que vous savez, on enchaîne les réformes les unes derrière les autres, y compris pour les retraites, mais on n'en sort jamais. Et pourquoi on n'en sort jamais? Parce que pendant ce temps-là, beaucoup de jeunes et de femmes sont dans une précarité totale. Et donc, ils ne peuvent pas cotiser pour la protection sociale et donc il y a ce déséquilibre parce que bon, on nous parle beaucoup de la démographie, du faible nombre d'actifs par rapport aux inactifs, etc. Mais l'État, il parle de ces problèmes-là, il parle de faire travailler davantage les seniors, mais il parle pas du tout de traiter le problème de la précarité des jeunes, parce que la prolongation des études ne fait très souvent que cacher un problème de chômage chez les jeunes. Donc on voit que on ne sortira pas.
C'est-à-dire qu'les jeunes rentrent dans l'emploi plus tardivement, et donc ils seront en plus, si ils ont la chance d'avoir un emploi sur leur période active, ils partiront à la retraite encore plus tardivement aussi.
Plus tardivement, bien sûr, parce que c'est l'âge d'entrée. Mais surtout, ce qui est grave, et moi je le tiens à le dire, parce que c'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour beaucoup de jeunes aussi, il devient très difficile de construire sa vie, parce que quand tout le monde, toute une génération de gens entre 20 et 30 ans sont dans une précarité totale, eh bien c'est difficile d'avoir un projet de vie familial. C'est même presque impossible. Donc on les incite, disons que le travail lui-même déjà devient souvent il est inintéressant, il est standardisé, répétitif, pas du tout épanouissant, mais en plus quand on n'a même pas la possibilité de construire sa vie parce que tous les ans on change de situation sociale, professionnelle, on redevient étudiant, évidemment c'est compliqué quoi.
Et il y a question aussi de mensualiser l'allocation chômage sur une base de 30 jours. Et là, j'ai lu que dans Précarité Magazine, que même quand il y a 31 jours, ça sera 30 jours qui sera versé. Et sur l'année, ça fait à peu près moins 18 euros en moyenne par mois.
Oui, effectivement, on enlève 5 ou 6 jours par an d'indemnité, oui.
Voilà, oui. C'est pour grappiller bêtement.
Voilà,
quoi.
Les conventions UNEDIC sont pleines de petites entourloupes comme ça, malheureusement.
Et alors j'ai lu autre chose aussi, c'est que le contrôle s'intensifie, et que les règles vont changer au 1er juin avec un nouveau système appelé suspension remobilisation.
Exactement.
Ils choisissent leur terme.
Oui,
on remobilise les chômeurs pour qu'ils aillent travailler, même s'il n'y a pas d'emploi, parce que il faut quand même le dire, selon la CGT, en ce moment, il y a 200 plans sociaux, au moins 150 000 emplois menacés pour les plans sociaux, mais il y a bien sûr d'autres emplois qui sont menacés. 13 000 dans la métallurgie, 7 000 dans le secteur public et associatif, 6 000 dans les banques et assurances, et 5 000 dans la chimie. Mmh. Voilà. Mmh. Il faut remobiliser des gens qui sortent, je ne sais pas, de la chimie ou de la métallurgie, il faut les remobiliser là où on est en train de licencier.
Oui, alors bon, la réforme, c'est un peu compliqué parce que, il y a plusieurs aspects de cette réforme maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une obligation, il y a les personnes qui s'inscrivent à France Travail maintenant doivent signer un contrat d'engagement dans lequel elles s'engagent à faire entre 15 et 20 heures d'activité. Alors, ça peut être assez varié. Ça peut être du travail, plus ou moins gratuit ou bénévole, enfin, je ne sais pas comment on peut dire. Ça peut être des formations. Ça peut être aussi des stages, ce qu'on appelle immersion dans une entreprise. Mmh. On les met en immersion, pour faire, je ne sais pas quoi, de l'observation.
Oui, et puis, ça ne veut pas dire qu'ils auront du boulot
Oui, alors, les activités, souvent les activités qu'on leur demande de faire, parce qu'il y a déjà eu une expérimentation depuis 18 mois de ces nouvelles mesures dans un certain nombre de départements. Et donc, on voit, enfin déjà, on a une petite idée, hein, par exemple, c'est des gens qui vont aller travailler dans des déchetteries, ou mettre des produits dans les rayonnages des supermarchés, ou dans l'agriculture, enfin, faire différentes choses. Et pas spécialement des choses très formatrices, ni très reluisantes. Et là... Maintenant, on est dans l'attente de ce décret de sanctions, suspension ou suppression du RSA et en vue d'une remobilisation. Alors, ça veut dire que on assouplit un petit peu le système de sanctions dans le sens où on va donner la possibilité à la personne, on va lui suspendre son RSA pendant un mois et lui donner le temps de réagir et de... Alors, il y a différentes situations pour lesquelles on peut sanctionner une personne. Il y a l'insuffisance de recherche d'emploi, le refus de deux offres d'emploi dites raisonnables, parce que dans le contrat, il y a définition de ce qui peut être une offre raisonnable d'emploi pour cette personne-là. Et puis, il y a aussi beaucoup de simples petites erreurs de remplissage des dossiers. Et comme tout maintenant va être traité par des algorithmes, une erreur de case dans le dossier, ça peut entraîner une sanction ou
une suspension,
voilà,
ou un arrêt même.
Oui, oui. Alors il y a toutes sortes de... Il y a même des personnes qui ne maîtrisent pas tout à fait les outils Internet et qui peuvent se faire sanctionner parce qu'elles n'auront pas rempli la bonne case.
Et on peut penser que des personnes qui sont précaires et qui n'ont pas d'outils Internet à leur disposition et donc ils ne peuvent pas s'entraîner sur les outils Internet sauf à aller à la poste ou aller dans un café web, parce que on apprend à se servir de ces outils en les utilisant régulièrement. Mm-hmm. Mais quand on le fait uniquement pour remplir
un dossier comme ça,
un dossier,
on peut se tromper. Donc il y a une suspension pour un ou deux mois de 30% à 100% du montant de l'allocation, avec un plafond à 50% lorsqu'il y a plusieurs personnes dans le foyer. C'est-à-dire que pour chaque personne qui ne remplit pas son contrat, on va enlever 50% de l'allocation. Et si l'allocataire se remobilise pendant la période de la suspension, il va pouvoir récupérer la somme. Mais après, ce système de sanctions, en cas de répétition des manquements, on a une suppression qui peut être de 1 à 4 mois, et voire après une radiation définitive des listes de personnes bénéficiant du RSA ou autre.
On va faire une petite pause avec une chanson féministe des Rosie.
Le sexisme, c'est fini. La révolution sera féministe. Et Macron, c'est mon corps, c'est mon choix. Tu défends tes potes, ministres et artistes. Attention. Prends garde, je te crois. Éducation, soins et nettoyage, c'est injuste. Les premières de corvée, petit salaire, temps partiel et chômage, ça suffit. On veut l'égalité. Il est temps, maintenant. Il est temps, maintenant. Il est temps, maintenant. Le sexisme, c'est fini. La révolution sera féministe. Et Macron, c'est mon corps, c'est mon choix. Tu défends tes potes, ministres et artistes. Attention, prends garde, oh, je te crois. Violence sexuelle et violence sociale, c'est sexiste. On ne veut plus subir. La grève féministe doit être générale. On résiste. Il est temps d'en finir. Dring, dring, lol, un numéro vert. C'est du vent, les violeurs sont pépères. Impunité, où sont nos 3 milliards? Et MeToo, ce n'est pas un bobard. Prenons garde, l'extrême droite nous menace. Solidaires de nos sœurs sans frontières. Tout y passe. Non, réarmement. Toutes ensemble, fortes et fières. La révolution sera féministe. Et Macron, c'est mon corps, c'est mon choix. Tu défends tes potes, ministres et artistes. Attention, prends garde, oh, je te crois. La révolution sera féministe. C'est mon choix. Tu défends tes potes, ministres et artistes. Attention, prends garde, oh, je te crois. Violence sexuelle et violence sociale, c'est sexiste. On ne veut plus subir. La grève féministe doit être générale. On résiste. Il est temps d'en finir.
Voilà, toujours en compagnie d'Odile Merclin pour parler de précarité et de chômage. Là, on a démarré sur le chômage et puis on arrive évidemment au RSA très vite. On en a déjà un petit peu parlé. Je rappelle que dans Précarité Magazine, il est fait état qu'il y a 9 millions de pauvres en France. Ce qui correspond à 14% de la population.
Hein? Oui.
Donc ça touche tous nos amis d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre. Hein? Oui. Notre famille, nos amis, voilà, 14% de la population. Pour le RSA, il avait été créé en 2009 avec l'idée de viser... un accompagnement vers l'emploi quand même. Le A, c'était l'autonomie. Hein?
Oui.
Mais ça, c'était du pipeau.
Bah, Disons que le RSA, déjà en 2009, quand on a remplacé finalement le RMI par le RSA, ouais. on a durci dans le texte de loi de création du RSA les obligations, parce que c'était les droits et devoirs du demandeur d'emploi. On a durci les obligations. En inversant, en fin de compte, la responsabilité de la situation sur la personne elle-même. Et donc, ensuite, là, maintenant, dans cette obligation qu'on veut rétablir, bon, ce qui est vraiment une chose extrêmement grave, les expérimentations qui ont été faites montrent que on a une très forte augmentation du non-recours au droit. C'est-à-dire que le principal effet de cette rénovation ou réforme du RSA, c'est que les gens préfèrent ne pas demander le RSA plutôt que de risquer d'être dans ces situations de contrôle incessant. Et là, il faut dire que, par exemple, les personnes sont contrôlés, et le nombre de contrôles, bon, qui a déjà doublé, parce qu'on était à 300 000 contrôles par an, on est passé à 600 000 en 2024, mais là, les pouvoirs publics veulent aller jusqu'à 1,5 million d'ici 2027. Et ces contrôles obligent la personne à faire un compte-rendu détaillé, non seulement de toute leur recherche d'emploi, parce qu'ils ont dû remplir des documents pour ça, pour en faire état, mais aussi de leur emploi du temps quotidien. Ils sont incités à rendre compte de toutes leurs activités, de toutes leurs démarches, de tout ce qu'ils font, pour essayer de montrer qu'ils font des démarches d'insertion, qu'ils s'occupent d'eux,
quoi. J'ai lu, même s'ils vont, on leur conseille de faire du sport.
Voilà. Ou même s'ils vont faire quelques heures de bénévolat dans une association. Mmh. Enfin, ils sont incités à faire état absolument de tout. Et en fait, les résultats qu'on peut observer dès maintenant sont tout à fait négatifs, parce que, par exemple, on observe que 7 ans après une entrée dans le dispositif, on a seulement un tiers de personnes qui ont pu revenir dans un emploi stable. Et puis, on a un effet qui est que sur les personnes qui ont été sanctionnées, eh bien, il y en a la moitié qui ne perçoivent plus aucune prestation sociale 1 an après la sanction.
Dire que ils sont dégoûtés
et seulement dégoûtés, et certains se retrouvent même à la rue. Donc on a l'exemple de cette femme, je me rappelle plus,
Sandrine
dans la Haute-Loire, oui, qui s'est mise en grève de la faim.
À la fin avril.
Oui, et qui peut-être toujours, parce que je sais que samedi dernier, il y a eu un rassemblement pour la soutenir. Elle est exactement dans ce cas-là, c'est-à-dire on lui a interrompu toutes ses prestations sociales, et du coup, elle a perdu son logement, et les services sociaux lui ont enlevé sa fille.
Oui.
Voilà. Et elle n'a toujours rien compris. Elle a écrit, elle a fait des démarches dans tous les sens, et personne n'a été capable de lui expliquer quoi que ce soit. Elle est dans la rue, donc elle s'est mise devant la mairie de Tence, enfin je ne sais plus exactement le nom de la ville. Et puis elle restait là, et elle est en grève de la faim depuis plusieurs semaines. Donc voilà, mais c'est pas du tout un cas isolé, c'est des milliers de personnes qui se retrouvent comme ça, jetées à la rue. Et bien évidemment que le résultat, c'est que il y a une augmentation des difficultés de ces personnes-là, et ça ne va pas dans le sens de retrouver un emploi.
Alors, j'ai lu aussi que dans l'Allier, il y a la même chose en Alsace, hein. Dans l'Allier, les conditions d'attribution se durcissent. Cela concerne, pour le RSA, 10 000 personnes, hein, pour ce département. Et donc, un budget de 70 000 euros. Et comme 71 autres départements, l'Allier a décidé de ne pas rembourser à la caisse d'allocation familiale l'augmentation qui est prévue de 1,7% sur le RSA applicable à partir du 1er avril. Pourquoi ? Parce que l'Allier décide que ça lui fait un surcoût de 1 million d'euros. Et comme on lui demande, et comme l'État se décharge sur les départements de plein d'autres choses, eh bien, on ne va pas donner cette augmentation aux allocataires du RSA, mais on va l'utiliser pour autre chose. 72 départements qui ont décidé de faire ça. Hein. C'est énorme.
Il y a même des départements qui ont décidé de rendre le RSA temporaire et régressif. On pourrait toucher le RSA pendant 3 ans et ensuite il y aurait pendant 3 ans et ensuite je sais pas exactement.
On plafonnerait les aides sociales.
De toutes les façons, ouais, il y aurait un plafonnement à 75% du SMIC. Pour toutes les aides sociales, y compris les allocations, les APL, éventuellement les allocations familiales, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui compte dans ces 75% du SMIC, mais toutes les prestations sociales seraient plafonnées.
Donc, il y a
des nouvelles choses qui sont en préparation. Et parce qu'il y a un mois, l'État a dit qu'il allait faire 40 milliards d'économies en plus par rapport à ce qui était prévu dans la loi de finances de 2025. Mmh. Donc, immédiatement, les budgets qui ont été les plus impactés, c'est les budgets de l'aide sociale, la protection sociale, la culture aussi, le ministère de la culture. Il y a eu beaucoup
et puis
de
les droits
projets
des femmes et les droits des femmes
et les associations.
Oui.
Les associations.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Donc, alors moi, je voudrais donner une petite idée de l'augmentation de la pauvreté. Là, on a quelques chiffres quand même. Très forte augmentation des impayés de loyers et des expulsions locatives. En 2024, il y a eu une hausse de 29% des expulsions avec le concours de la force publique par rapport à 2023. Et une augmentation de 50% par rapport à 2019. Ce nombre est trois fois plus élevé qu'il y a 20 ans et ces expulsions ont touché 50 000 personnes, donc en 2024. Et les préfectures envoient désormais la force publique, y compris pour expulser des personnes vulnérables, gravement malades, des femmes avec enfants en bas âge. Et bien évidemment aussi, il y a une mise à la rue de mineurs isolés et de personnes qui sortent du dispositif de l'aide sociale à l'enfance et qui sont souvent des personnes qui ont déjà été maltraitées pendant leur enfance.
Ouais.
Donc déjà ça, et alors après, il y a aussi toute la question des aides, du nombre de personnes qui ne vivent que grâce à l'aide alimentaire des associations humanitaires. Et ces associations ont constaté un très fort accroissement et ils n'ont plus les moyens d'assurer une aide satisfaisante pour ces personnes. 2 400 000 personnes fréquentent régulièrement ces associations. Il s'agit de plus en plus souvent de personnes qui travaillent, des retraités et des étudiants et beaucoup de femmes dedans.
Qui n'ont pas de revenus ou d'allocations suffisantes pour pouvoir
ressources. Alors après, évidemment, c'est intéressant, c'est important de parler des familles, de la situation des femmes et notamment des familles monoparentales, parce que les mères isolées ou mères, qu'on appelait autrefois les mères célibataires, mais là, elles sont complètement ciblées par toutes ces mesures et de plus en plus souvent aussi stigmatisées. Alors, il faut quand même dire que parmi les foyers allocataires du RSA, on a à peu près un tiers de femmes, de familles monoparentales, où, bon, la très grande majorité, ce sont des femmes qui sont à la tête de ces familles. Donc, les effets déjà de cette obligation de 15 heures d'activité par semaine peuvent être de leur rendre la vie très très compliquée. pour ces femmes.
Quoi faire des enfants
voilà, surtout parce que souvent, celles qui travaillent déjà quelques heures par semaine, elles ont des emplois du temps extrêmement compliqués, éclatés. Elles ne disposent pas forcément de moyens de garde d'enfants bon marché compatible avec leurs horaires. Et ni non plus d'un moyen de transport personnel. Donc les heures de travail, si on leur rajoute 15 heures à faire, comme
plus,
ça...
Plus le temps de trajet.
De façon plus ou moins négociée, parce que je suppose que ce sera probablement des horaires imposés, ça ne correspond pas forcément à leur possibilité de garde d'enfants. Et alors là, je vais faire un petit retour en arrière. Il faut se souvenir que le dispositif du RSA majoré concerne à 96% des femmes et il correspond à ce qui était auparavant l'allocation de parents isolés. Or, la création de cette allocation, qui a été la première allocation d'aide sociale non conditionnée par une activité professionnelle, c'était en janvier 1976 et moins d'un an après la promulgation de la loi Veil, parce que beaucoup de députés craignaient à cette époque-là un très fort accroissement du nombre des avortements. Et ils s'étaient rendus compte qu'une allocation de parents isolés devenait indispensable, car c'était le seul moyen d'empêcher de nombreuses jeunes femmes de recourir à un IVG. Donc ce sont à nouveau ces femmes-là qui vont se retrouver stigmatisées et précarisées encore plus qu'auparavant. Alors, moi, je lis ça, je dis, il faut faire attention, parce qu'on est dans des logiques, franchement, tellement régressives qu'on se demande maintenant, avec tout ce qui est dit sur la protection sociale, le déclin démographique, etc. Bon, bien évidemment, plus que jamais, il faut faire très attention à cette question de l'IVG.
À la question de l'IVG et à la question qui vient de l'extrême droite de renvoyer les femmes à la maison, extrême droite et Macron, pour le réarmement démographique.
Exactement. Hein? Mais alors là, il faut voir ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis.
Oui, oui.
Bah, on sait ce qui se passe. Et alors, j'ajoute une chose, c'est que pour les contrôles, c'est flagrant parce que les prestations de la CAF pour les familles, il y a à peu près, toutes allocations confondues, il y a à peu près les familles monoparentales représentent 16% et 36% quand il s'agit des contrôles. Donc, c'est plus de. Elles sont plus de deux fois plus souvent contrôlées qu'elles représentent dans toutes les allocations. Après, il y a actuellement des associations. Alors, il y a notamment une association qui s'appelle Changer de Cap, qui effectivement s'occupe des personnes qui ont été dont les allocations ont été coupées par la CAF, parce que c'est vraiment un phénomène de très très grande ampleur. Et là, on se rend compte que les algorithmes, de plus en plus, toutes les coupures d'allocations sont décidées par des algorithmes. Et ces algorithmes ont été conçus de façon à cibler tout particulièrement les personnes les plus vulnérables. Alors, les mères isolées, les personnes handicapées et les immigrés qui viennent de pays hors de l'Union européenne. Tout simplement parce que ce sont les personnes qu'on soupçonne de fraude. Comme ce sont les personnes vulnérables, elles sont soupçonnées de vouloir frauder beaucoup plus que des personnes qui...
Alors qu'on sait très bien que ceux qui fraudent le plus, c'est ceux qui ont le plus d'argent.
Voilà, donc c'est assez terrible.
Alors, on va faire une petite pause avec Amel Bent, Décharge mentale.
Minuit une, je sors de mon lit. Je vais pas fermer l'œil de la nuit. Au clair de lune, je cherche la rime. Et demain me donne le vertige. Moi j'aimerais écrire une chanson et me lever tôt pour mes enfants. Rappeler la banque pour la maison. Changer les rideaux du salon. gonfler les pneus de mon vélo. Il faut que je devienne écolo. Aller voir mamie à l'hosto. Le temps l'a rendu moins costaude. Dire à mon homme qu'il se souvienne que ça ne suffit plus que l'on s'aime. J'ai pris 3 kilos cette semaine. Et merde, y'a plus de liquide vaisselle. Signer les carnets de liaison. Acheter des légumes de saison. Me réconcilier avec maman, même si c'est pas elle qui a raison. Putain, je vois plus aucun ami. Une tournée, ça laisse du vide. Et puis faut que j'aille voir un médecin. Moi j'ai peur du cancer du sein. Y'a des trucs, pourquoi je les garde comme des souvenirs que j'entasse. J'ai des factures de 2004, faut que je fasse un tri dans ma paperasse. Et faire ma couleur rapidement, on voit trop mes cheveux blancs. Hier encore j'avais 20 ans, et demain déjà 40 ans. J'aimerais quelqu'un qui parle, qui sache écouter sans me juger. C'est vrai, je travaille pas à l'usine, mais parfois je suis épuisée. Mais faut pas que j'arrête de chanter, sinon ma voix va décoter. Et comme parfois par le passé, me remettre en difficulté. Je voudrais apprendre le piano, la guitare ou le cello. Moi je veux m'accompagner solo, quand mon équipe n'est pas dispo. Dire à ma fille que je suis cruelle, d'être plus exigeante avec elle. Dire aux petits de la comprendre, c'est pas facile d'être la grande. Et je gueule trop quand je suis stressée, mes mômes n'ont rien demandé. Je veux pas reproduire ce que j'ai vécu. Aussi maman, si j'avais su, 7h10, je suis dans mon lit. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'est déjà l'heure du biberon. J'ai pas écrit ma chanson.
Amel Bent, des charges mentales. Alors, c'est pas la situation la plus précaire qui soit qu'elle raconte, mais elle raconte quand même une situation de femme qui doit tout gérer en même temps. On est toujours en compagnie d'Odile Merclin. Et là, je voudrais qu'on aborde des problèmes de logement, de santé, de scolarité, enfin, tous ces problèmes qui caractérisent la précarité. Parce que j'ai lu toujours dans Précarité Magazine qu'il y a 2,7 millions de foyers en attente de logement HLM pour l'année de 2024. Il y a 2,7 millions. Or, en 2024, il y a que 384 000 logements qui ont été attribués. Sur les 2,7 millions, il reste toujours 2,3 millions et plus tous ceux qui se rajoutent aujourd'hui. Et c'est dans l'attribution des logements sociaux, c'est une baisse par rapport à 2023 de 2,3%. Et on a descendu en dessous des 10%. C'est-à-dire qu'en 2023, on était à 10,1% d'attribution. Et là, on est à 9,4.
Oui.
Et si on continue de descendre, ben on peut penser qu'il y aura quasiment plus d'attribution, quoi, de logement.
Bah oui, il y a aussi un phénomène de destruction de logements sociaux, parce que il y a des immeubles et quelquefois des quartiers entiers qui sont détruits dans certaines villes. Et là, la plupart des associations s'opposent à cette destruction des immeubles d'habitation, parce que bien évidemment, les solutions de relogement ne sont souvent pas très pratiques pour les personnes qui vivaient là. Et il y a notamment la Confédération nationale du logement, enfin toutes les grosses associations qui essayent de lutter contre ça, parce que très souvent une rénovation aurait été possible et bien préférable.
Et puis par petites tranches, pour pas qu'il y ait trop de personnes à reloger momentanément, quoi. Voilà, on peut envisager les choses autrement plutôt que de détruire tout un quartier.
Oui.
On a vu à Paris, hein, quand ils ont détruit les quartiers les plus pauvres de Paris, ils ont tout rasé et du coup, les gens, ils sont partis à 50 km de Paris.
Oui, bien sûr, ça oblige à aller beaucoup plus loin.
Voilà, et du coup, d'avoir plus de transport, des fois de perdre son travail, etc., etc.
Oui, il y a toute une politique qui consiste, en fin de compte, à virer les milieux populaires des centres-villes, et à les envoyer beaucoup plus loin. Et notamment, il y a aussi des arrêts anti-mendicité dans certaines villes. Et il y a aussi, alors un truc que je ne savais pas, c'est des jeunes qui accumulent des milliers d'euros de dettes, un endettement, pour des raisons de multiverbalisation par la police dans certains quartiers, parce que simplement on veut éviter qu'ils puissent se rassembler sur le trottoir, alors on leur colle tout un tas d'amendes pour des infractions qui peuvent aller de l'incivilité au jet de détritus ou enfin n'importe quoi, des petites infractions, et ils accumulent ça pendant des années et ça leur fait des grosses dettes. Et c'est toujours les mêmes jeunes qui sont contrôlés. Ça a eu lieu notamment dans le 12e arrondissement. Ouais. Il y a eu des procès à cause de ça.
Alors, il y a aussi des tentes. Et c'est pas que des personnes en situation de migration. Il y a des tentes, il y a des cabanes qui se construisent partout. Partout.
Oui,
parce qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas les moyens de se loger. Mais il y a des villes qui régulièrement saccagent les tentes et les cabanes.
Exactement, on cherche à déplacer ces populations-là. Alors je ne sais pas, quand on détruit une tente, je ne sais pas comment on imagine régler le problème de la personne qui vit sous la tente, mais effectivement, c'est pour les déplacer, les obliger à aller ailleurs, mais le résultat c'est que le tissu social est de plus en plus déstructuré et que les gens n'ont plus personne quoi, autour d'eux. Déplacer continuellement comme ça les gens, c'est dans ce but, en fait. C'est de détruire les liens sociaux, en fin de compte.
Alors, il y a des gens qui vivent dans des voitures, dans des mobilhomes, dans des... Bon, mais il y en a qui se fabriquent des petites cabanes ou des tentes, voilà. Oui. Parce qu'ils ont, ils ont rien d'autre. Et c'est... des gens qui peuvent être... ça peut aussi être des gens qui travaillent, mais qui ont très peu de revenus et qui n'ont pas les moyens de se loger, quoi.
Bien sûr. Voilà. Et notamment des femmes en... Enfin, on n'a pas beaucoup parlé de cette situation-là, mais des femmes en situation de rupture conjugale et de violence familiale, qui sont très souvent dans ces situations. Parce que c'est vrai que pour ces femmes-là, vraiment, on sent que toutes ces soi-disant réformes de l'assurance chômage et du RSA vont les impacter totalement, parce que c'est pas du tout facile pour elles quand elles sortent d'une période de conflit violent avec le conjoint, de pouvoir retrouver un emploi, retrouver un logement, et souvent elles... Les dossiers sont compliqués à remplir, elles n'ont pas les pièces justificatives qu'il faut. Souvent, le conjoint même les empêche de faire leur démarche. Ils ont tout un tas de moyens pour les contrôler, ne pas leur donner les feuilles d'imposition, enfin n'importe quoi. Il y a tout un tas de pièces justificatives à fournir qu'elles n'ont pas forcément, et elles se retrouvent dans des situations inextricables.
Je me souviens d'une émission qu'on a fait avec Séverine Lemière, où elle racontait que il fallait que les employeurs comprennent que quand une femme ne venait pas au rendez-vous qui était prévu, c'est peut-être aussi qu'elle avait été empêchée.
Exactement, bien sûr.
On lui avait pris ses clés, on lui avait pris son passe Navigo, on l'a séquestrée carrément à la maison. Hein, dans les cas de violence qu'elles subissent, eh bien, ça les empêche aussi d'aller à un rendez-vous de recrutement.
Hein. Exactement. Et puis, je crois que la philosophie, finalement, de toutes ces réformes, c'est de faire, non plus du tout, de faire respecter les droits humains, les droits fondamentaux, mais c'est de contrôler les populations les plus vulnérables, les plus fragiles. Et donc, on met continuellement la pression sur les plus pauvres et les plus défavorisés. C'est flagrant, quoi. C'est eux qui, à chaque fois, vont encore perdre, devenir encore plus précaires, encore plus pauvres. Et Moi, je crois que sur l'assurance chômage, il faudrait vraiment que les gouvernements se rendent compte qu'il est bien plus difficile de travailler, même ne serait-ce que 70 heures par semaine, quand on est sans arrêt en train de courir après des contrats, après des heures de travail, et qu'on a plusieurs employeurs et qu'on a des emplois du temps très compliqués, ben c'est plus difficile que de travailler régulièrement en CDI, à temps complet, etc. Donc on les pénalise de leur précarité, et on leur donne encore moins d'argent à ces femmes-là.
Mais écoute, je te remercie de tout ce que tu viens de dire. Je rappelle que Précarité Magazine, c'est une lettre d'information pour les chômeurs, les précaires, les cassos et leurs amis. Un hebdo qui est gratuit et toute reproduction totale ou partielle est recommandé. Et pour recevoir Précarité Magazine, il suffit d'envoyer un mail à précarité, mais sans l'accent du « et », précarité.magazine@gmail.com. Merci Odile.
Ben, c'est moi qui te remercie et je dis bonsoir à tous les auditeurs.
Eh bien là, on va écouter Fanchon d'AMRS qui vient de nous envoyer cette chanson qui est assez ancienne, mais elle nous en a fait cadeau. Ça s'appelle « Les Souvenantes ».
Thank you. cité. L'adversaire en nous-mêmes nous pousse à disparaître, tenir, tenir debout, combattre une justice
Fanchonda et Mers, les souvenantes. Et nous passons à la dernière partie de notre émission avec des informations, des communiqués, des rendez-vous. La Cité des droits des femmes aux Arches citoyennes organise donc aux Arches citoyennes une soirée Femmes pour la paix le mercredi 21 mai à partir de 17h avec présentation de 3 livres par leurs autrices, Culture de la paix, édition Utopia, Wind, édition Masso, et La guerre contre les femmes contre la guerre, édition du Monde Libertaire, donc le livre que j'ai écrit. Suivra un débat, et en même temps, il y aura une expo photo interactive et ça se terminera par le pot de l'amitié. Alors, les arches citoyennes, ce sont les bâtiments, les ex-bâtiments de la PHP qui sont en face de l'hôtel de ville de Paris, des bâtiments qui, pour l'instant, sont occupés par plein d'associations et qui vont pas y rester éternellement. C'est un espace, on va dire, éphémère, puisque je crois que c'est une grosse banque qui a dû racheter ces bâtiments. Voilà, en tout cas, c'est juste en face de l'hôtel de ville et c'est le mercredi 21 mai à partir de 17h. Règle élémentaire, présente, Regla, R-E-G-L-A, accent grave. Et c'est le lancement d'une première application qui recense les lieux de mise à disposition de protection périodique gratuite en France. Alors vous savez qu'on a plein de lieux où les préservatifs sont gratuits depuis des années et des années. Eh bien, c'est quand on en a besoin, qu'on a besoin d'une protection périodique, ça peut être utile de savoir où il y en a tout près de là où on est. Et en plus, gratuite. Donc, c'est l'application Regla, R-E-G-L-A. Accent grave. Google Crypt de Marie-Hélène Leny du 3 avril au 26 mai. Donc, tout le mois de mai encore, vous pouvez aller à Nuage Vert au Centre des Alternatives, 122 rue de Bagnolet, dans le 20e. Et cette présentation a lieu tous les vendredis et samedis de 14h30 à 19h. Michel Rollin, Mémoire de l'histoire ouvrière, Le Métron. C'est un film qui sera diffusé à la SCAM le 23 mai à 19h. Le résumé, Jean Métron, pionnier de l'histoire ouvrière, initie en 1955 une entreprise colossale, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, communément appelé le Métron, qui s'inscrit dans une conception novatrice à l'époque d'une histoire sociale tissée par les histoires d'inconnus. Le film évoque cette formidable aventure collective et la figure de son créateur, également historien de l'anarchisme, à travers les témoignages de ses successeurs et des archives dont certaines sont inédites. Alors ça se passe le 23 mai à la SCAM, à l'auditorium Charles Brabant, 5 avenue Velasquez dans le 8e arrondissement, métro Villiers ou Monceau. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles et il est conseillé de réserver auprès de rolin.michel@sfr.fr, Rolin, R-O-2-L-I-N, point Michel, M-I-C-H-E-L-E, @sfr.fr, ou par téléphone au 06 28 36 27 16. Une exposition de Amande Art jusqu'au 30 mai, qui s'intitule Moreres, c'est une série de grands portraits de femmes inspirantes d'Amérique latine d'hier et d'aujourd'hui. Et c'est au Café Fusain, dans le 11e arrondissement, 50 avenue Parmentier. On écoute Cesaria Evora, Saudade.
Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando me. Saudade, 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 desse minha terra sem enclave. Saudade, 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 desse minha terra sem enclave. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando meio. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando meio. Saudade, 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 desse minha terra sem enclave. Saudade, 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 desse minha terra sem enclave. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra sem enclave.
Voilà, on vient d'écouter Cesaria Evora dans Saudade. Elle est décédée le 17 décembre 2011 et depuis, ses musiciens continuent à faire vivre son répertoire sous le nom de Cesaria Evora Orchestra. La formation actuelle est composée des artistes de la scène capverdienne d'aujourd'hui, donc c'est Seuzani, Elida Almeida, Lucibella et Théophilo Chantre. Actuellement, ils sont tournés en Amérique du Nord et ils vont débuter leur tournée française par un concert à la Marbrerie à Montreuil le 4 juin prochain. Et puis d'autres dates, le 6 juin, ils seront au Festival Musique Métis à Angoulême. Le 5 décembre... Et le 6 décembre, ils seront dans le festival Africolor. Donc le 5, ça sera au théâtre Sarah Bernard à Goussainville, dans le 95. Et le 6 décembre, ça sera au théâtre des Bergeries à Noisy-le-Grand, dans le 93. Voilà, et puis il y a une autre date, salle Jacques Brel à Fontenay-sous-Bois, dans le 94, ça sera le 13 décembre. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler. Slam, poésie au petit nez, samedi 17 mai, eh bien, de 17 à 19 heures, un atelier slam poésie, écrire et dire, animé par Katmat pour s'essayer ou se perfectionner en humaine compagnie. Entrée libre, sans inscription. De 20h à 20h30, un spectacle performance de Axel de la Paix. Slam au féminin accueillera donc Axel de la Paix en version acoustique, guitare-voix en présence de Roméo Simula Axel. Simula, voilà. Axel de la Paix est un artiste hip-hop depuis le début des années 90, auteur, compositeur, interprète et beatmaker. Il a joué avec MC Solar, avec Zozea, avec Faudel, Katia Aznavour. Il vient de sortir son nouvel album « Face au ciel qui est composé de 9 titres abordant l'amour, la paix, la beauté, le pardon, le voyage et l'instant présent. Voilà, et à 20h45 jusqu'à 23h, ça sera scène slam poésie ouverte à toutes et tous. Les repas peuvent être pris sur place, ils sont végétariens et le petit nez, c'est 10 avenue de la Porte Montmartre, Paris 18e, métro Porte de Saint-Ouen ou Porte de Clignancourt. Les publications des éditions du Monde Libertaire, eh bien, on va citer les deux derniers ouvrages. Le tout dernier, c'est « Séquences libertaires » de MLT pour les textes, Holt pour les dessins. Et c'est un album avec des planches consacrées à certains personnages anarchistes ou à certaines situations de grève. Et l'album est à 15 euros aux éditions du Monde Libertaire. L'anarchie des météores, une analyse savante et critique de la question climatique de Philippe Pelletier, aussi aux éditions du Monde Libertaire. Et le 14 juin, un colloque Art, anarchie et émancipation se tiendra à l'AERI à Montreuil, 57 rue Étienne Marcel. Alors, je crois qu'on a le temps de dire qu'il y aura Christiane Carlu, la commune de Paris et le luxe communal, Nicolas Éprendre, reclus et la peinture, Raphaël Romney, littérature ouvrière et paysanne, Fabienne Bruegel, Boal et le théâtre des opprimés, Isabelle Marinone, cinéma et anarchisme, Sandrine Malika Charlemagne présentera le film aux côtés d'Armand Gatti, André Robert, la poésie visuelle, une esthétique anarchiste, Amanda Hart, Séverine, journaliste anarchiste, Hélène Hernandez, Nelly Trumel, peintre, féministe et anarchiste, Priscilla Noël, danse, quête de liberté, Jean Aubel, parcours d'un chanteur libertaire, et Sylvia Skrotowska, Joël Guéraud et Guy Girard, rêve, révolte, révolution, une archéologie du surréalisme. Et en parallèle, dans ce lieu donc de l'AERI à Montreuil, 57 rue Étienne Marcel, ce 14 juin, il y aura deux expos d'Amande Art et une expo surréaliste. Le documentaire « Deux vies pour l'Algérie et tous les damnés de la Terre » sera projeté le samedi 17 mai au cinéma L'Escurial dans le 13e arrondissement à 11h30, suivi d'un débat animé par Jean-Emmanuel Ducoing, rédacteur en chef de l'Humanité. Et ce documentaire a été réalisé par Sandrine Malika Charlemagne et Jean Hasselmeyer. Je rappelle que Sandrine Malika, ça fait deux fois que j'en parle, c'est une contributrice de l'émission Femmes Libres pour l'Opus Poétique. Et ce documentaire, donc, avec un débat qui sera animé par Jean-Emmanuel Ducoing, mais ce sera aussi en présence de l'historien Gilles Manceron. Le temps des cerises. Alors, Alors, la librairie Publico, 145 rue Amenot, Paris 11e, elle est ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 13h à 19h30, et du mardi, donc, au dimanche. Le samedi, c'est à partir de 10h. Du 2 au 23 mai, donc encore quelques jours, puisque nous sommes aujourd'hui le 14 mai, exposition VIS, V-I-S, d'Ewen, VIS sur les violences policières. Le vendredi 16 mai, à 19h, le voyage suspendu, c'est un spectacle de peinture parlante de Frédéric Forjard, accompagné par Didier Guègde, proposé par Moé Musique. Et le mercredi 21 mai, à 20h, ciné commune, le village contre la multinationale, projection débat. Alors, la prochaine émission aura lieu le mercredi 21 mai, avec la deuxième partie de la tribune libre consacrée à consentement ou pas. Et puis, notre invité sera Dominique Martre, Le Grand Banquet, L'Arzule, un siècle dans une conserverie bretonne. Et c'est un livre qui vient juste de sortir. Ça parle de la chronique vivante sur un mode ethnographique avec des archives rares, des témoignages, des photographies. Et c'est la longue histoire de la conserverie L'Arzule qui a été créée en 1906 pour des conserves de légumes, de poissons, de viande. Et c'est aussi l'histoire de dynasties d'ouvrières dans un siècle d'évolution technique et de lutte sociale. On vous souhaite une bonne soirée en compagnie d'Orage Mécanique et on vous dit féministe
tant qu'il le faudra.
On termine avec Estelle, l'hymne des femmes.
Nous qui sommes sans passé, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, nous sommes privés de mémoire, debout, femmes en rage, et détruisons nos cages. Debout.
qui tâtonne, qui retrace notre histoire, les billets pour Lisbonne, ce fameux décollage, on a cru y rester. Je relis dans nos pages toutes celles qu'on a cornées. Je relis dans nos pages toutes celles qu'on a cornées. Tout au fond de mon tiroir, y a tout un tas de conneries, des regrets, des déboires, et toute cette jalousie. Sous une pile de factures, la poussière, la routine, le besoin d'aventure, le manque d'adrénaline. Tout au fond de mon tiroir, je retombe sur ta lettre, écrite à l'encre noire, et en pleurant peut-être. Une lettre manuscrite, comme on n'en ferait plus. Quand j'ai lu « Je te quitte » sur ta lettre, il a plu. Quand j'ai lu « Je te quitte » sur ta lettre, il a plu. Tout au fond d'un tiroir, le tiroir de ma vie, quand mon amour se barre, y a l'épaule d'un ami. Et un jour sans prévoir, le beau temps chasse la pluie, on referme un tiroir et un autre se remplit. Tout au fond d'un tiroir, le tiroir de ma vie, quand mon amour se barre, y a l'épaule d'un ami. Et un jour sans prévoir, le beau temps chasse la pluie, on referme un tiroir et un autre se remplit. Referme un tiroir et un autre se remplit.
Les folies